Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui un nouveau livre qui a pour titre « Parle-moi d'amour ». Il est écrit par Michel Kouaïs et édité par les Éditions Ouvrières. En voici le résumé que je vous lis tel qu'il est rapporté sur la quatrième de couverture. Après quoi, je vous donnerai une courte biographie de l'écrivain tel que rapporté au début du livre. Parle-moi d'amour. Une ambiance mystérieuse et prenante, un itinéraire de jeunes attachants, de magnifiques textes poétiques pouvant être détachés de leur contexte pour être lus dans une veillée ou une célébration, font de cet ouvrage original une œuvre remarquable. Elle fera réfléchir beaucoup de jeunes et d'adultes et leur donnera ou redonnera le goût d'aimer. Dans notre monde moderne, l'amour est banalisé, dévalué, chosifié. Abîmer l'amour, c'est, à long terme, détruire la vie. Il était urgent de redonner à l'amour sa vraie place au cœur de l'homme et du monde et de redécouvrir sa dimension d'infini, repoétiser l'amour et lui rendre son mystère. Michel Kouaïs s'y emploie magnifiquement. Comment ? Il s'en explique lui-même dans son introduction et nous allons la lire. Ce livre n'est pas un exposé systématique, encore moins un livre de recettes pour réussir en amour. Il n'est pas non plus une histoire présentée comme un exemple. C'est un recueil de textes, de réflexions et de méditations sur l'amour. Certes, cette méditation est habillée d'une histoire. Un jeune visite régulièrement un sage qui, lentement, le guide dans sa découverte de l'amour. Mais cette histoire n'est qu'un support artificiel, une occasion pour introduire à la méditation. Histoire volontairement floue, où s'expriment deux personnages principaux, au visage à peine esquissé, afin de laisser à l'imagination des lecteurs un espace de liberté suffisant pour leur permettre de retrouver, au-delà des circonstances particulières, leur propre recherche du cœur. Michel Kouaïs, il est né au Havre en 1921. Très jeune, il entre au travail et s'engage dans la JOC, puis s'oriente vers le séminaire. Il est ordonné prêtre en 1947. Il prépare une maîtrise en sciences sociales, puis un doctorat à l'Institut d'études sociales, Institut catholique de Paris. Sa thèse, « La ville et l'homme », prix Janssen 1954 à la Sorbonne. Chercheur et praticien, il met au point une méthode d'enquête urbaine devenue un classique. Pasteur en paroisse, aumônier d'Action catholique, en lien avec les grandes initiatives religieuses d'après-guerre, il publie en 1960 « Prières » au pluriel. Un succès foudroyant, traduit en 24 langues, plus de 2 millions d'exemplaires vendus de par le monde. Ses autres ouvrages, régulièrement réédités, dont plusieurs dépassent également le million d'exemplaires, ses conférences à l'étranger, son rôle en Amérique latine, ses interventions à la télévision, font de Michel Kouaïs un des auteurs religieux les plus connus en France et dans le monde. À mes amis lecteurs, je vous remercie de bien vouloir lire jusqu'au bout cette introduction. Elle vous évitera de rechercher dans ce livre ce que je n'ai pas voulu y mettre et vous expliquera pourquoi j'ai adopté pour le rédiger une forme littéraire inhabituelle. En effet, si vous connaissez tel ou tel de mes autres ouvrages, vous serez peut-être surpris de constater que cette forme diffère totalement des précédentes. L'amour banalisé, chosifié. Dans le monde actuel, vous le savez comme moi, l'amour est dangereusement dévalorisé. D'une façon générale, certains ne croient plus à l'amour, et plus particulièrement à l'amour dans le couple. Le mariage n'est plus nécessaire. La fidélité, pas possible. Les essais, indispensables. L'amour, un plaisir physique, une technique qui s'apprend et qu'il faut à tout prix réussir. Certes, l'amour n'est plus tabou. On en parle. Heureusement, garçons et filles sont initiés. Mais comment ? Cours de sciences naturelles, schémas, conseils multiples pour faire l'amour sans risque, etc., etc. Parallèlement, certaines jeunes commencent à se lasser d'une éducation sans âme et de nombreuses expériences décevantes. D'autres, plus âgées, fiers de s'être enfin libérés des contraintes et des préjugés du passé, ne trouvent pas le bonheur au bout de leurs aventures. L'amour serait-il autre chose ? Quelques-uns commencent à l'entrevoir et souhaiter le découvrir. Dans certains pays, aux États-Unis en particulier, les valeurs du couple, de la fidélité et même de la virginité avant le mariage sont redécouvertes. Des aspirations nouvelles se font jour. Elles sont un appel de la vie qui risquait de mourir si l'amour mourait. L'amour, un grand mystère. Il faut redonner à l'amour sa vraie place et sa vraie dimension. Sa vraie place, elle est au cœur de l'homme et au cœur de l'histoire du monde. L'amour est la force, l'énergie essentielle sans laquelle homme et monde ne peuvent se développer harmonieusement et connaître le bonheur. Sa vraie dimension, elle est infinie. L'amour dépasse l'amour. Ils viennent d'ailleurs et volent vers l'ailleurs. Pour le croyant, l'amour vient de Dieu et va vers Dieu. Dieu est amour. Dans cette grande aventure, le couple et le foyer sont au centre. C'est l'amour qui se fait chair et fait vivre la vie, comme un jour Dieu amour a pris visage d'homme et s'est fait lui-même chair pour nous donner la vie. Quel est ce livre ? Ce livre n'est pas un exposé systématique sur l'amour, encore moins un livre de recettes pour réussir en amour. Il n'est pas non plus une histoire d'amour présentée comme un exemple. C'est un recueil de textes, de réflexions, de méditations sur l'amour pour tenter d'aider quelques lecteurs à en découvrir ou redécouvrir la beauté, la grandeur, mais aussi les exigences. Certes, cette méditation est habillée d'une histoire. Un jeune visite régulièrement un sage qui lentement le guide dans sa découverte de l'amour. Mais cette histoire n'est qu'un support artificiel, une occasion pour introduire à la méditation. Histoire volontairement floue où s'expriment deux personnages principaux au visage à peine esquissé, afin de laisser à l'imagination des lecteurs un espace de liberté suffisant pour leur permettre de retrouver, au-delà des circonstances particulières, leur propre recherche du cœur. Réel ou irréel ? Pourquoi avoir adopté cette forme, apparemment si loin de la vie réelle ? Pour tenter de repoétiser l'amour, lui restituer sa profondeur en faisant entrevoir son mystère. L'amour ne sortira jamais parfaitement programmé de nos machines électroniques ingurgitant leurs cartes perforées. Il ne livrera pas ses secrets au bout des autopsies de savants patentés. Seule la contemplation peut atteindre le réel dans toutes ses dimensions. La poésie peut être un chemin privilégié pour y parvenir. Elle n'est pas irréelle. Elle est un moyen de connaissance pour accéder à l'au-delà intérieur du réel, là où celui-ci ne se laisse saisir qu'à travers des symboles. Les limites de ce livre. L'aventure de l'amour recouvre toute la vie. Or, ce livre est volontairement limité à quelques aspects de l'amour, spécialement dans sa deuxième partie, à l'amour du couple et de l'enfant. À ce point de vue, il est artificiel, car l'homme se développe à travers toute sa vie. Ses relations interprofessionnelles, sa vie d'étudiant, sa vie professionnelle, sa vie de loisir, son milieu, la société dans laquelle il évolue. Mais on ne peut tout dire, il fallait choisir. J'ai isolé la démarche intérieure, celle du cœur, à la demande de nombreux jeunes en recherche pour leur futur foyer, et d'adultes voulant redécouvrir quelques racines essentielles de leur amour difficile. J'ai beaucoup insisté, je le reconnais, sur les difficultés de l'amour. Pourquoi ? D'une part, par réaction contre l'attitude de tant et tant de garçons et de filles qui embarquent pour leur vie d'amour comme pour une croisière d'agrément. Vivre l'amour est facile, pense-t-il. Il est attirance mutuelle, réponse à un impérieux besoin. Il suffit de se laisser aller. D'autre part, à l'inverse, j'ai souvent rencontré des hommes profondément déçus. Ils idéalisaient l'amour sans en mesurer les difficultés. Ils se sont heurtés aux multiples obstacles de la vie et profondément blessés, ils perdent tout espoir. « Ce n'était pas ce que j'avais rêvé, » disent-ils. Pour ces raisons, j'ai tenté de montrer que l'amour est une très belle, mais difficile aventure, qu'elle se poursuit au long d'une vie entière et ne s'épanouira pleinement que dans la rencontre définitive du Dieu amour. Aimer, ce n'est pas se laisser conduire par un merveilleux sentiment. C'est soulevé, soutenu par ce sentiment, vouloir de toutes ses forces et jusqu'au prix de sa vie faire le bonheur des autres, d'un autre. Par contre, je n'ai pas brandi les interdits et décrit la noirceur du péché. Quelques-uns le regretteront peut-être qui voudraient à nouveau faire danser les flammes de l'enfer aux yeux indifférents des hommes d'aujourd'hui. Il faut, certes, être clair sur le but à atteindre et la route à emprunter, mais je suis sûre que si l'on peut, par la peur, faire respecter un règlement, on ne peut jamais, par la peur, entraîner à aimer. Je sais aussi, pardonnez-moi mon assurance, que si, grâce au Seigneur, j'ai pu quelquefois ranimer une flamme, c'est la flamme de l'amour et non celle de l'enfer. Mes propres limites. Repoétiser l'amour, faire entrevoir la profondeur infinie de son mystère. C'est un objectif ambitieux et de ma part sûrement prétentieux. Sachez que je mesure pleinement l'humiliant décalage entre le but entrevu et les limites de mes moyens. Il aurait fallu beaucoup de temps pour travailler et perfectionner ce texte. Plongé dans l'action, je n'en ai guère à ma disposition. Il aurait surtout fallu être un grand poète et un grand mystique, c'est-à-dire un homme au regard de foi assez pur pour voir au cœur de ceux qui aiment, Dieu vivant qui fait signe. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Comme vous, j'essaye d'aimer, je n'y parviens pas toujours. Ayez donc la bonté d'accueillir ce livre comme un essai. Mon excuse est d'avoir été invité à l'écrire. Mon assurance d'avoir fait vérifier, comme à l'habitude, au fur et à mesure de son écriture, la portée de mes mots. De tout mon cœur, je remercie tous ces lecteurs bénévoles, spécialement les jeunes, qui m'ont fait le précieux cadeau de leurs remarques et de leurs encouragements. Sans eux, peut-être aurais-je abandonné. Ma certitude, enfin, c'est que, dépassant les imperfections de ce livre, vous saurez, en le lisant non comme un roman qu'on parcourt en une soirée, une note de l'écrivain, je me permets de souligner également que ces textes ne sont pas à parcourir des yeux, mais à lire pour que soit restitué le rythme que j'ai essayé d'y introduire. Amis auditeurs, je vais tenter moi-même, par mes lectures à haute voix, de vous aider dans votre recherche. Première partie. Vivre, c'est aimer. Ami, assieds-toi, je te conterai. Écoute avec ton cœur, sinon tu n'entendras que le murmure des mots, mais tu ne goûteras pas la saveur de leur chair. Chapitre 1. J'avais 20 ans, ou bien 25 ou plus, ou moins, peu importe. Je voulais vivre, mais je ne savais pas pourquoi vivre, ni comment vivre. Je cherchais jusqu'à l'angoisse, me cognant au mirage de mes déserts. J'avais faim, mon corps avait faim, ma chair vivante, comme des millions de bouches folles, cherchait à dévorer jusqu'aux plus petites miettes de plaisir, ramassées sur les bords de mes chemins. Mon esprit avait faim. Pour le nourrir, je recueillais pêle-mêle toutes les idées qui traînaient dans les livres, les images et les mots sur les lèvres des hommes. Mais ma tête était ruche bourdonnante qui ne donnait pas son miel. Quelquefois, plus loin, plus avant dans cette pauvre tête, là où, je le pressentais, finit la terre pour un autre univers, quelques rayons de soleil illuminaient ma nuit. Mais aussitôt, les nuages venaient effacer la lumière. Il me restait le rêve. Il m'emmenait très loin. Mais est-ce vivre que de rêver sa vie? Et l'orage bien vite s'annonçait, éclatait, il déchirait mes vêtements de rêve et me laissait nu étendu sur mon lit comme un fol amant qui ne se connaît point d'amante. J'avais soif. Mon cœur surtout avait soif, là-bas au fond, tout au fond, bien au-delà de la chair et du sang, dans cet arrière-pays mystérieux dont, inquiet et tremblant, je mesurais l'infini en mesurant l'infini de ma soif. Oh, cette soif brûlante qui incendie tout l'être comme un feu qui tournoie dans un gouffre sans fin. Et pourtant, je vivais. Mais comment continuer de vivre si l'on ne sait pas pourquoi l'on vit et comment nourrir sa vie? Ma vie? Je la traînais comme un paquet encombrant que de mauvais plaisants se repassent les uns aux autres parce qu'ils ne savent pas quoi en faire et qu'il est trop lourd à porter. Mes parents m'avaient dit « Nous avons fait notre devoir. Nous t'avons donné la vie comme on nous l'a donnée. » Généreux et bien intentionné, ils m'avaient même transmis une morale. Vieux mode d'emploi, notice à demi effacée que je déchiffrais avec peine. Mais m'avait-il suffisamment appris à lire? Le mode d'emploi disait « Il faut faire ceci et ne pas faire cela ». Je demandais « Pourquoi ?» Mes parents répondaient « Parce que c'est bien » ou « Parce que c'est mal ». Mais je ne savais pas pourquoi c'était bien ou pourquoi c'était mal. Mes parents eux-mêmes ne le savaient pas. Quand tenaces je les questionnais, ils répondaient « Parce que c'est ainsi !» Très vite, je m'aperçus que mon père et ma mère ne vivaient pas toujours ce qu'ils me disaient. Les adultes autour de moi non plus. Quant à mes camarades, Beaucoup d'entre eux ricanaient en déclarant que mon mode d'emploi depuis longtemps périmé n'était plus applicable. Ils n'en connaissaient point d'autres et prétendaient que, de toute façon, il serait inutile et qu'il ne fallait pas se poser de questions puisqu'il n'y avait pas de réponse. L'important est de vivre, disait-il, puisqu'enfin maintenant rien n'est interdit, puisqu'on peut marcher sur les pelouses et cueillir à notre goût toutes les fleurs des parterres. Fais tout ce que tu as envie de faire et tu seras heureux. Et je le fis. J'ai parcouru beaucoup de jardins, je les ai souvent piétinés et j'ai cueilli les fleurs de plaisir. Mais de vrai bonheur, je n'ai point trouvé. Quelquefois, je l'ai effleuré en quelques heures fugitives. Mais comme bouchée fondante en ma bouche trop avide, ces maigres bonheurs disparaissaient sans entamer ma faim. Et vous, amis, éprouvez-vous encore en votre cœur le tourment de la faim et celui de la soif, ou très tôt résigné, avez-vous rejoint cette multitude d'enfants prodigues qui partit loin de leur père et pauvres de leur riche héritage, se satisfont maintenant de la nourriture volée aux porcs de la ville, voir la parabole de l'enfant prodigue dans l'évangile de Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Et même si, fils fidèle, heureux privilégié depuis longtemps en la maison, vous connaissez le goût du pain et la saveur du vin, n'avez-vous pas encore chaque jour faim et soif? Car je le sais maintenant, l'homme est ainsi fait, et n'est-ce pas sa grandeur, mais aussi son tourment, que ses faims et ses soifs ne sont jamais apprivoisées? Au moment où il croit les dompter, elles échappent et renaissent toujours plus vivantes. Elles courent devant lui et lui s'épuisent à les poursuivre sans jamais les atteindre. L'homme est faim et soif inassouvi. Il meurt quand meurent ses désirs. J'avais faim, j'avais soif, mais je ne savais pas de quelle nourriture et de quel breuvage. Rien n'est plus cruel que d'avoir faim sans connaître le pain. Rien n'est plus cruel que d'avoir soif sans connaître le vin. Et je pensais, qui me délivrera de mes tortures? Un premier ami me dit, « Ce n'est pas en te regardant que tu pourras trouver ta route. Sors de chez toi. Si tu demeures au port, tu ne connaîtras rien de la mer infinie. » Mais je n'avais pas de boussole et je ne savais point naviguer. Un deuxième ami me dit, « Tu trouveras ton chemin dans le livre, L majuscule. Là sont engrangés des mots de Dieu pour guider les hommes et les nourrir en voyage. J'avais quelquefois ouvert le livre. J'en respectais les mots car ils me semblaient beaux, mais chaque fois, ces mots mystérieux m'échappaient, grains à l'écorce trop dure pour m'offrir leur froment. Un troisième ami me dit, « Il te faut quelqu'un pour t'expliquer les mots. Quelqu'un qui les ait mangés et qui nourrit de leur substance puisse te redonner leur vie en des paroles d'aujourd'hui. Va voir le sage. Tout le monde raconte qu'il parle comme le livre et que ses mots sont semences au cœur de ceux qui l'écoutent. Si ta terre est fertile, elle portera du fruit au centuple. » Je décidai d'y aller. Ce sont mes recherches, mes doutes et mes luttes que je vous conterai, celles de mon cœur et non celles de toute ma vie. Ce sont les paroles du sage que je vous rapporterai. Chapitre 2. Le sage habitait un minuscule appartement au fond d'un obscur couloir. Nul ne savait qui il était, ni d'où il venait. Ce qu'il approchait respectait son mystère. Je le respecterai. J'avançais à tâtons le long du corridor sombre. Ne fallait-il pas traverser la nuit pour atteindre la lumière? Je frappai. La porte s'entr'ouvrit et j'aperçus le sage, faiblement éclairé par la lueur timide d'une fenêtre minuscule. C'était un très vieil homme. Il n'avait pas les longs cheveux et la longue barbe blanche que sottement j'avais imaginé. Je crois même que son visage était quelconque, mais je ne le vis pas. Je ne vis que ses yeux, ou plutôt la lumière de ses yeux. Dès cet instant, je crus irrésistiblement que cette lumière venait d'un mystérieux ailleurs, qu'elle était soleil et vie, et que si je l'accueillais, elle illuminerait mes routes quotidiennes. Plus tard, pourtant, je douterai. « Bonjour, mon ami, dit le sage, je t'attendais. » Il m'observa longuement et son regard sur moi rafraîchissait mon cœur comme une rosée qui pénètre lentement une terre desséchée. Après un long silence, il murmura « Tu as beaucoup de chance. »« Et pourquoi ? » dis-je. « Parce que tu es un homme et que tu peux chercher. La rose est belle, mais elle passera sa vie de rose sans savoir pourquoi elle est belle et surtout pour qui. À quoi bon chercher si l'on ne trouve pas ? Qui cherche loyalement trouve. Mais l'aveugle parfois refuse la lumière et le sourd ne veut pas entendre la parole. « Je vous en prie, suppliai-je, aidez-moi à vivre. J'ai faim et soif de vie, et je ne trouve point de nourriture qui puisse me rassasier. » Le sage ne bougeait pas. Il ne répondait rien. Un long silence nu se glissa dans la pièce. J'étais gêné et tout sauté, espérant le chasser, mais il demeurait là et s'installait comme un habitué de la maison. Je compris très vite à la façon dont le sage, maintenant, souriait sous son baiser que ce silence était pour lui plus qu'un ami, peut-être un mystérieux époux. Un jour, beaucoup plus tard, le sage me le confirma. Il ajouta que cet époux donnait à son esprit tous les enfants que le bruit jadis lui avait refusés. « Tu verras, me disait-il, tu l'aimeras toi aussi et tu l'épouseras. Si tu es fidèle, je te le prédis, à chacun de tes rendez-vous avec lui, te naîtront de nouveaux fils. » Aujourd'hui, je ne comprenais pas ces étranges paroles. Moi qui ne fréquentais que les bruits et qui, pour meubler ma solitude, les emmenais partout avec moi et jusque sur ma couche. Cependant, je n'étais pas venue apprivoiser le silence. Je voulais une parole et j'osais insister. « Je veux vivre !» Le sage ne me laissa pas finir. Il releva la tête et lentement, très lentement, murmura. « Il ne s'agit pas de vivre, mais d'aimer. » Je ne comprenais pas davantage, mais je ne le dis pas, craignant qu'à mon pourquoi le sage ne réponde ce que j'avais tant de fois entendu résonner dans ma tête comme le bruit d'une porte brutalement fermée, parce que c'est ainsi. J'avais tort. Il parla le premier. « Écoute, petit, tes faim et tes soifs t'égarent en même temps qu'elles t'obsèdent. Tu ne pourras jamais les satisfaire. Amasserais-tu toutes les nourritures de la terre pour tenter à chaque heure du jour d'en dévorer tout ton soûl, que tu resterais prisonnier de ta faim et veuf de bonheur. Car ces faims, F-A-I-M-S, ne sont pas tes vraies faims. Elles en cachent d'autres, plus tenaces, plus exigeantes encore, car elles sont infinies. Le désir le plus profond au cœur de l'homme, de tout homme, bien avant le désir de vivre, c'est le désir d'aimer et d'être aimé. Là est la vraie faim de l'homme. » Il se recueillit et ajouta presque tout bas, comme s'il se parlait à lui-même. « Ce n'est pas étonnant, puisqu'il est fait par amour et pour l'amour. »« Mais la vie est première, dis-je. car nul ne peut aimer s'il n'est pas d'abord vivant. Non, nul ne peut vivre s'il n'est pas d'abord aimé. La vie est un fleuve et non pas une source. Et toi, tu plonges dans le fleuve, en lui tu te tournes et te retournes, mais le fleuve coule sous ton ventre, il échappe à tes bras. De tes mains avides, tu tentes d'en saisir l'eau vive, mais tu n'en retiens rien, car les gouttes rebelles filent entre tes doigts serrés et rejoignent en courant leur sœur qui s'éloigne. Quelquefois tu bondis sur la rive sauvage, séduit par une fleur aux couleurs de feu. Mais quand fatigué, tu regagnes ton fleuve, c'est pour découvrir, rageur, qu'il est parti sans toi et que ta fleur est morte. Si, las de trop lutter, tu t'arrêtes enfin au vomitant de l'eau pour contempler ton fleuve et tenter d'en percer le mystère, tu le vois couler, et puis couler toujours, mais tu n'apprends rien de lui, car tu ignores encore et sa source et sa mère. Ainsi, la vie, si elle coule en toi, en moi, en toute l'humanité, c'est qu'elle est fille de source, et sa source est amour. Si tu veux vivre, ne retiens pas ta vie pour toi. Elle doit caresser d'autres rives, irriguer d'autres terres. Toi, cours à la source. La vie, tu la perdras si tu veux pour toi la garder et dans ton cœur pour en jouir l'enfermer. Mais tu la trouveras si à cause de la source, tu acceptes de la perdre. Voir l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 25. J'étais fascinée, mais troublée. Ma tête tournait comme si j'étais restée trop longtemps exposée au soleil. Je me débattais, je protestais. Perdre ma vie? Mais je ne veux pas mourir. Qui te parle de mort? Je te parle de vie. Un jour, tu comprendras que mourir n'est pas cesser de vivre, mais bien cesser d'aimer. Je remerciai le sage et pris congé de lui. Je ne savais pas alors si un jour j'oserais le revoir. Chapitre 3. J'étais allongée sur mon lit, mal dans ma peau, mal dans mon cœur. Au retour du travail, souvent, quand je ne m'enfuyais pas de la maison, cherchant à éviter de pénibles et stériles tête-à-tête avec moi, j'échouais là, comme au port, une barque abandonnée qui prend l'eau de toutes parts. Ce soir-là, je tentais de réfléchir. Près d'un mois s'était écoulé depuis ma visite au sage. Séduit, curieux et craintif à la fois, je ne me décidais pas à le revoir. Ma tête cherchait des excuses. Elle n'acceptait pas ces paroles. Était-ce réponse à mes questions que ces réponses-là? Mon cœur, lui, était inquiet. Peureux, il voulait fuir, pressentant un danger. Il me murmurait tout bas. Et si les paroles du sage étaient paroles de vérité? Heureusement, mon corps cria. Il avait faim, et je ne pensais plus à rien, sinon à lui trouver sa nourriture. J'appelai d'abord les bruits, mes fidèles alliés. Ils vinrent, chansons et rythmes, envahir ma chambre. J'avais ce pouvoir magique d'augmenter leur puissance, et rageur, je le fis, ignorant les voisins. Je ferai taire mon corps, et j'étoufferai les murmures de mon cœur. J'y parvins, mais je demeurai inquiet, car je sentais qu'en moi s'approchait la tempête, une de ces tempêtes que je redoutais tant. Ce fut la plus forte de toutes celles que je connus. L'orage fondit sur moi comme une tornade. Tout ce que malgré tout de temps en temps j'essayais de bâtir sur mon île, comme pierre sur pierre, assemblant quelques idées que je croyais plus claires, quelques bonnes intentions qui réveillaient mon cœur, tout était balayé dans le temps d'un éclair. J'avais l'impression qu'en moi, autour de moi, rien ne restait debout, rien. Partout, des ruines. Pire, le vide. Et au bord du vide, mon cœur battant, blessé à mort par un terrible sentiment, le sentiment d'une absence, d'un manque. Mais manque de quoi? De qui? C'était là la torture. Étais-je normal? Je me le demandais. Fou, peut-être? Mais est-ce folie que de chercher à vivre? Est-ce folie que de chercher d'où vient la vie? Où elle va? Est-ce folie? Je m'aperçus brusquement que c'était la première fois que je me posais cette question. Est-ce folie de chercher à quoi sert sa vie? Et dans un dernier haut le cœur, je pensais, ce qui ne sert à rien, on le jette. J'avais une fois pensé le faire. Était-ce sérieux? Peut-être. Je pleurais. Je pleurais. Combien de temps? Je ne sais. Pourquoi certains hommes ont-ils honte de pleurer? À chaque fois, rarement hélas, que mes yeux avaient consenti aux larmes, j'en avais été rafraîchie et quelque part en moi était close quelques fleurs nouvelles. J'entendis vaguement au loin une voix m'appeler « À table !» et je criai « Oh, ironie, je n'ai pas faim !» Le calme peu à peu revenait, mais dans la brise bienfaisante se glissaient comme un murmure les paroles du sage. Il fallait me l'avouer, ce sont elles qui me tourmentaient et c'était contre elles que je luttais. Je me battrais encore. Non, je ne lâcherai pas ma vie pour je ne sais quel mirage. Oui, je voulais vivre et je chercherai la vie. Je la poursuivrai. Dussé-je me blesser encore? Je l'empoignerai. Et comme on écrase le fruit pour qu'il donne son jus de toutes mes forces, je la presserai pour qu'elle me livre son bonheur. Je me levai d'un bond, je fus à la fenêtre, je l'ouvris pour appeler à moi toutes les forces du vent. Ce fut ma perte. Dehors, une chanson chantait, une chanson d'amour. Elle glissait sur le vent et m'atteignait au cœur. Je réalisai soudain que toutes les chansons chantaient l'amour et que tous les films parlaient d'amour et que tous les romans racontaient des amours et que tous les hommes... Je les regardais marchant dans la rue, courant dans la rue. Ils rentraient à la maison retrouver leurs amours et ce sont eux qui ce matin les en avaient fait sortir pour aller à la ville gagner leur nourriture. Et si certains ressortaient aussi vite, déchirés et déçus, c'est que leurs amours se mouraient et qu'ils en cherchaient d'autres qui se donnent ou se vendent. Ce soir, plus tard encore, lorsque les jeunes, eux aussi, regagneraient leur maison, après avoir flirté avec l'amour, croyant l'apprivoiser, lorsque une à une les fenêtres s'éteindraient, je savais que dans ces demeures, enfants, parents, époux, épouses et solitaires, chacun à leur façon, dans leurs rêves ou leurs gestes, leurs mots ou leurs silences, leurs rires ou leurs pleurs, leurs prières ou leurs blasphèmes, leurs étreintes ou leurs coups, tous, toutes tenteraient de saisir, de manger quelques bouchées d'amour. Cet amour qui fait vivre et sans lequel je commençais timidement à l'admettre. L'homme meurt parce qu'il meurt de faim. Penché à la fenêtre, je regardais encore la rue. J'aperçus un enfant qui, imprudemment, traversait la chaussée et sa mère sur lui se jetait pour le retenir et le protéger. Je crus entendre murmurer, mais c'était en mon cœur. « Je donnerai ma vie pour toi. » J'aperçus des amants s'embrassant tendrement. Maintenant, ils souriaient et parlaient doucement. Je crus entendre murmurer, mais c'était en mon cœur. « Je donnerai ma vie pour toi. » J'aperçus un homme qui, dans son journal, lisait « Le deuxième gréviste de la faim vient de mourir. » Je crus entendre murmurer, mais c'était en mon cœur. « Je donne ma vie pour la justice et pour la paix. » J'accueillis enfin le silence. Mais au cœur du silence, le croirez-vous? J'entendis distinctement une voix. C'était celle du sage. Il disait « Tu vois, petit, un amour est plus précieux qu'une vie. » Étais-je vaincu? Je ne le crois pas. Mais, en tout cas, je me couchai en paix, étrangement heureux. Je m'endormis et je rêvais que je frappais à la porte du sage. Pour terminer la lecture du jour, je reprends quelques lignes de la page 12. Dans la note que l'auteur a mise en bas de page, il a dit « Je me permets de souligner également que ces textes ne sont pas à parcourir des yeux, mais à lire pour que soit restitué le rythme que j'ai essayé d'y introduire. N'hésitez donc pas, après avoir écouté le direct Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB+, de passer sur « Je lis pour vous » et notre site pour avoir les podcasts. À bientôt, chers amis, pour la suite de ce texte.